France Musique.
Voici Sophie Anastasio, Classique Info. Bonjour.
Bonjour
Sophia.
Jean-Baptiste.
On commence avec le Centre de musique baroque de Versailles. Il se lance dans deux nouveaux projets.
Cette année, l'institution va mettre en place des résidences croisées d'artistes et d'ensembles français avec des salles et des festivals dans tout le pays. Exemple, l'ensemble Les Ombres en résidence au Centre culturel de rencontre d'Ambronay pendant 2 ans. Parallèlement, le Centre de musique baroque de Versailles lance cet été la première édition de son académie de musique, de chant et de danse. 200 stagiaires sont attendus.
Mise à l'honneur par le festival Présence, qui commence après-demain, vendredi, ici à Radio France, George Benjamin se raconte cette semaine, c'est à lire dans Télérama.
Des Beatles au dessin animé Fantasia, le compositeur, pianiste et chef d'orchestre britannique revient sur ses premiers amours musicaux. Il raconte aussi sa formation entre la France et l'Angleterre, lui qui a fêté ses 60 ans vendredi dernier, jour où était acté le Brexit.
Et nous recevrons d'ailleurs ce vendredi, ici même à 8h30, George Benjamin, pour parler du festival Présence, un festival qui programme notamment son opéra Written on Skin, Sophia, mais sans Barbara Hannigan.
Suite à la perte d'un proche, la soprano, qui devait être sur scène à la Philharmonie de Paris le 14 février, sera remplacée par Georgia German.
Toutes les infos sur le festival sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio et France Musique diffusera l'intégralité des concerts.
Comme chaque semaine, un retour de spectacle de Guillaume Thion en partenariat avec Libération. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sophia.
Vous étiez où cette semaine ?
À Bordeaux, où j'ai assisté à la nouvelle production d'un opéra russe de 1875, Le Démon. Mais rassurez-vous, l'œuvre suit avant tout une intrigue amoureuse, dévorante, de celle qui vous prend au ventre et vous fait tout oublier pour vous précipiter dans les bras de l'être aimé. Sauf que l'être aimé, c'est un démon. Alors je reprends, voilà. Un démon errant tombe amoureux de Tamara, une princesse caucasienne. Il fait donc tuer son fiancé et la charme. Elle résiste, ne comprend pas cette attirance. De son côté, le démon s'aperçoit de la sincérité de ses sentiments et trahit pour elle sa nature. Tamara devient sa rédemption. La princesse cède, meurt et monte au ciel. Le démon continuera, lui, à errer, mais la conscience tranquille.
Quel beau programme.
Oui, oui, oui. Mais c'est assez beau en réalité, car pour accompagner cette adaptation d'un poème de Lermontov, le compositeur Anton Rubinstein, sans lien de parenté avec le pianiste Arthur Rubinstein, et à qui l'on doit la création du conservatoire de Saint-Pétersbourg, s'est abreuvé à toutes les eaux du romantisme. La partition, très jouée au 19e et plutôt rare à notre époque, est tourmentée, lyrique, tantôt douce aux accents chambristes, tantôt véhémente avec des chœurs imparables. Elle scintille telle une lumière dans un vitrail dépeignant toutes les étapes de la passion. Dans la fosse, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, sous la baguette de leur directeur musical Paul Daniel, se tire sans heurts de ce parcours semé d'obstacles mené tambour battant. Mais le plus spectaculaire vient de ce qu'on entend de la scène et notamment du couple formé par Tamara et le démon.
Alors on en a parlé ici, est-ce que finalement Nicolas Cavalier a pu chanter ?
Oui, la basse française, revenue d'un hématome qui l'a privé des deux premières représentations, nous a enfin fait partager son personnage, ce dont il s'est tiré avec une grande crinière blanche et des honneurs. Quant à la soprano Evgenia Mourareva, elle est à son avantage dans un rôle très lourd vocalement. La dernière scène, par exemple, accumule les crêtes pendant 25 minutes. Ou, tel un général dans une robe de princesse, elle dégage autant d'assurance dans les pianis que dans les fortés.
Pas de point noir alors ?
Si. Alors la narration a vieilli, certes, mais surtout la mise en scène statique joue son va-tout sur une scénographie en forme d'œil gigantesque façon Sauron. Non seulement le dispositif est discutable, mais le sol étant incurvé, il oblige les protagonistes à évoluer prudemment. La soprano s'est foulée la cheville le soir où j'assistais au spectacle. Et surtout, son caractère rigide le situe à des années-lumière de la mouvance rapide des flux de l'amour. Comme si le metteur en scène Dmitri Bertman voulait absolument encager ses sentiments qui ne cherchent eux qu'à s'envoler par-delà la religion et la mort. Bertman essaie bien de glisser de la légèreté, mais c'est comme courir avec des chaussures de ski, c'est peine perdue.
Merci beaucoup Guillaume, un opéra qui sera, je le rappelle, diffusé sur notre antenne le 28 mars. Quant à vous, on vous retrouve la semaine prochaine.
Il y a encore 2 représentations, demain et dimanche au Grand Théâtre de Bordeaux.
Bonne journée Guillaume.
À la semaine prochaine.
En Australie, un autre opéra, l'Opéra de Sydney, ferme ses portes pendant 2 ans.
Une première depuis son inauguration en 1973. Ses travaux coûteront environ 92 millions d'euros et ils permettront notamment d'améliorer l'acoustique de la salle très souvent critiquée, jugée notamment hideuse par l'acteur John Malkovich.
Chacun ses goûts et on termine par un article. Il est à lire dans l'hebdomadaire Courrier International. Article qui nous présente l'orchestre indonésien Sound of Borobudur.
Et la particularité des musiciens de cet orchestre, c'est qu'ils s'inspirent des bas-reliefs du temple Borobudur, situé au centre de l'île de Java, pour recréer les instruments utilisés au 8e siècle. La frise de ce temple représente en effet une extraordinaire encyclopédie de la vie dans les villages à cette époque, et l'ensemble a donc reconstitué les sons qui étaient emmurés. On y retrouve notamment beaucoup d'instruments à cordes avant, ou encore, Jean-Baptiste, des trompettes en forme de coquillage.
On verra les photos sur francemusique.fr dans l'article à retrouver suite à ce Sound of Borobudur qui semblait vous inspirer d'ailleurs, Guillaume Thion.
Très beau nom, je trouve.
Oui, oui. On verra comment ça s'écrit d'ailleurs. Sur francemusique.fr, on vous retrouve demain à 8h moins le quart, Classique Info. Sophie Anastasio, très bonne journée.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.